France Culture.
Et c'est reparti pour les Midis de Culture. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent à 13h. Comme promis, on discutera avec Thomas Gijol, mais tout de suite, on discute avec Nicolas Herbeau pour le Point Culture.
Discutons, Marie. Bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes. Pour beaucoup, c'est une revue qui a révolutionné la manière de voir le cinéma. En avril 1951, souvenez-vous, la couverture est jaune et elle devient un signe de ralliement des cinéphiles. Depuis plus de 70 ans, de très nombreux et nombreuses critiques s'y sont donc succédés pour raconter l'actualité des salles obscures. Un patrimoine qui, jusqu'à hier soir, dormait au format papier dans les archives de la revue des Cahiers du cinéma. Jusqu'à hier, car la revue, qui a failli disparaître il y a 5 ans, aujourd'hui va mieux et vient de tout mettre en ligne sur abonnement. Dépoussiérer et numériser ces archives sont dans le dossier du Point Culture du jour. Et bonjour Julie Le Tiffu.
Bonjour Nicolas Herbeau.
Vous êtes la directrice générale de la revue des Cahiers du cinéma. C'est donc vous qui avez mené ce projet très conséquent. 820 numéros, une cinquantaine de hors-séries ont donc été numérisés et sont accessibles depuis aujourd'hui. Cela représente 75 000 images. Qu'est-ce qui a, Julie Le Tiffu, motivé ce projet de transformer tout ce patrimoine papier en archives numériques d'abord ?
Alors, l'ambition de ce projet, avant tout, c'était de moderniser un titre iconique et le préserver en l'inscrivant définitivement dans l'univers du digital. Depuis notre arrivée il y a 5 ans au Cahier du cinéma, c'était l'un de nos objectifs sans doute le plus précieux pour nous, à savoir de rendre accessible l'ensemble de nos archives au grand public, de développer le lectorat des cahiers en leur donnant une dimension aussi plus internationale, et d'inscrire vraiment ce projet-là dans le cadre d'une relance de l'entreprise qui était très endettée il y a 5 ans, dans un état de quasi dépôt de bilan en 2020 à notre arrivée. Donc on y met tous nos espoirs.
Ça veut dire que évidemment les Cahiers du cinéma, c'est une marque depuis 1951 et qu'il y a donc évidemment tout ce patrimoine important. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces archives ? Est-ce qu'il y a des perles en quelque sorte ?
Alors, il y a énormément de choses, comme en résumé, en quelques minutes, c'est presque impossible. En tout cas, vous retrouverez des textes cultes de la critique cinématographique, comme ceux notamment d'André Bazin, de Serge Danet, qui sont des auteurs fondamentaux dans l'histoire de la critique française, ou ceux de critiques devenus cinéastes, comme François Truffaut. Je peux citer un article qui est très connu, Une certaine tendance du cinéma français, qui date de 1954 et qui fut en quelque sorte l'acte de naissance de la nouvelle vague, des textes de Claude Chabrol, Éric Rohmer, entre autres critiques devenus cinéastes. Et on trouve aussi, bien sûr, des entretiens fleuves avec les plus grands cinéastes du monde, de toutes les époques et de tous les continents, comme Chantal Akerman, Kubrick, Agnès Varda, Alfred Hitchcock, Francis Ford Coppola, Federico Fellini, il y en a tellement. Et j'ajouterais peut-être une chose, c'est que les cahiers ont été des pionniers dans la pratique de l'interview. Et on peut citer les voyages de Serge Danet notamment et Wiz Khorecki à Hollywood qui ont interviewé des cinéastes de l'âge d'or comme Léo McCarré. Voilà, je pense à un entretien de 1965 qu'on peut retrouver très précisément dans le numéro 163. L'idée, c'est vraiment d'offrir une seconde vie à ces textes et à cette parole qui constitue certainement le plus grand livre de cinéma du monde.
Alors justement, Julie Le Tiffu, est-ce que vous avez déjà imaginé qui allait être et qui vont être, puisque ça se lance aujourd'hui, les lecteurs et les lectrices? Comment est-ce qu'on peut faire aussi cette consultation? C'est une double question.
Alors, la consultation, elle sera très simple, et je vous dis ça avec une grande émotion, puisque après 2 ans et demi de travail, n'importe quel lecteur, cinéphile, amateur du 7e art pourra se connecter et s'abonner aux archives des Cahiers du cinéma à partir du site internet des Cahiers. Et voilà, on se réjouit, on espère qu'un maximum de gens pourront se connecter et pouvoir découvrir cette mémoire collective et patrimoniale immense.
Alors j'imagine aussi que vous vous êtes plongé dans toutes ces années d'archives, que vous avez vu aussi évoluer les Cahiers du cinéma au fil de ces années et de ces décennies. Est-ce qu'il y a un changement en particulier qui vous a le plus marqué dans le traitement du cinéma par les Cahiers justement ?
Un changement, non, mais c'est vrai que quand on regarde, et d'ailleurs c'est quelque chose que vous pourrez découvrir, si je puis me permettre une petite digression, c'est que nous avons un partenariat avec Google Arts & Culture et nous avons créé une exposition digitale, la première exposition digitale des cahiers sur Google Arts & Culture, qui va permettre justement aux gens de découvrir à travers des couvertures emblématiques tous les grands courants qui ont marqué l'histoire de la revue. Et je peux pas en choisir qu'un. C'est impossible parce que cette histoire, elle est tellement riche. Donc il y a eu évidemment la période jaune dans les années 50. Ensuite, la revue a vécu une période très militante, marxiste, dans les années 60-70. Ensuite, à la fin des années 70, les cahiers se sont plus recentrés sur une analyse esthétique et théorique du cinéma sous la direction de Serge Danet et Serge Toubiana, où ils se sont beaucoup plus ouverts à l'étranger, au cinéma américain, à des genres populaires, une cinématographie étrangère. Dans les années 90, ils se sont ouverts aussi à des cinéastes français émergents comme Arnaud Desplechin, Claire Denis. Ensuite, si on passe aux années 2000, les cahiers ont appartenu au groupe Le Monde. Donc là, voilà, c'est l'époque aussi des grosses productions d'auteurs au blockbuster hollywoodien. C'est une période qui a été marquée aussi par la collection des hors-séries Atlas du cinéma. La période croissante des séries télévisées aussi.
Plus de 70 ans, effectivement, d'existence, c'est immense et c'est très conséquent. Vous avez parlé de Google Art et Culture, puisque ce n'est pas une simple numérisation, il y a aussi tout un travail d'indexation, de navigation, de recherche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cette collaboration vous a apporté?
Oui, ce projet, il faut bien comprendre qu'il a une ampleur immense et qu'il n'aurait jamais été possible sans un partenaire solide. Et donc, c'est vraiment le fruit d'une rencontre avec les équipes de Google Art et Culture, qui est vraiment un laboratoire qui soutient aujourd'hui plus de 3000 institutions culturelles dans le monde, dans 80 pays. Et ils nous ont proposé les moyens et la technologie pour le faire. Et donc, en collaboration avec eux, l'intégralité de la revue a été numérisée dans un centre de numérisation à Munich. Ça a été fait à la main, parce que les archives des cahiers ont été envoyées là-bas, les revues papier. Ce sont des documents extrêmement fragiles et vu qu'ils sont presque introuvables au format papier, il y avait quand même tout un...
C'est très précieux.
Oui. Immense. C'est un trésor. Et grâce à l'intelligence artificielle et à la reconnaissance des caractères sous format OCR, des résumés automatiques ont été créés pour chaque numéro, ce qui a permis de générer une sorte de quatrième de couverture pour nos archives et pour faciliter leur exploration par les lecteurs.
Et donc, à partir d'aujourd'hui, on peut découvrir sur cahiersducinéma.com plus de 70 ans d'articles, de couvertures et de photographies du cinéma. Le prix de cet abonnement, Julie Le Tiffu, c'est combien?
Donc, la revue et l'accès aux archives, c'est 95€ pour 6 mois et 174€ pour un an depuis notre site internet.
Merci, Julie Le Tiffu.
Merci, Nicolas.
Et puisqu'on parlait de cinéma, Nicolas, une nouvelle salle ferme ses portes à Paris.
Après 87 ans d'existence, le Miramar, salle historique de la rive gauche appartenant au groupe Pathé, va diffuser ses derniers films ce lundi, le 9 juin. Une énième mauvaise nouvelle pour les cinémas de la capitale où les fermetures de salles s'enchaînent. 5 depuis 2012, le Luminor, lui, ciné d'art et d'essai, est toujours menacé de fermeture.
Mais vous nous dites aussi, Nicolas, que la résistance s'organise quand même dans les salles obscures.
Avec de nouveaux modèles, bien sûr, chacun essaie de cultiver sa particularité. Voici quelques exemples. La Géode a rouvert ses portes en début d'année et offre au public le plus grand écran du cinéma de la capitale. Le Pathé Palace et le Pathé Parnasse proposent une expérience premium, Marie, avec le prix qui va avec, je le précise. Enfin, autre modèle, le cinéma La Clé, qui a été racheté par un collectif après des années de lutte pour le sauver, qui doit bientôt accueillir à nouveau du public.
Demain, c'est Nuit Blanche en Ile-de-France.
24e édition chapeautée cette année par la réalisatrice Valérie Donzelli. Le cinéma est mis à l'honneur. Vous voyez mon obsession du point du jour, du point de culture du jour. Avec donc de nombreuses projections de femmes, notamment avec les œuvres d'Agnès Varda, Delphine Seyrig ou encore Chantal Akerman. Dans la soirée et la nuit de ce samedi, demain donc, ce sont des dizaines de petits et grands événements, tous gratuits, qui ont lieu dans Paris, sa proche banlieue, mais aussi au Havre et à Rouen. J'en cite quelques-uns. Un court film de Michel Gondry sera diffusé en boucle sur le pavillon de la gare Montparnasse. Son usine de films amateurs sera installée dans l'école municipale des Beaux-Arts de Villejuif. La musique et la création seront aussi dans les feux nocturnes. Les franciliens somnambules pourront voir des installations le long du canal Saint-Martin, du théâtre public à Nanterre. Un DJ set, ça c'est pour vous Marie, c'est à Aubervilliers. Ou encore une animation autour de la fontaine des Innocents. Une offre assez large, variée et très intense, comme avec ce parcours sonore de 900 mètres intitulé Quoi l'éternité, qui va investir les catacombes pour mettre l'accent sur notre finitude. Le programme complet est comme à chaque fois, et ne me regardez pas quand je dis finitude, sur la page web du Point Culture.
Et cette disparition, pour terminer, le galeriste Daniel Lelon est mort.
Oui, propriétaire de la galerie Lelon, c'était un grand nom du marché de l'art moderne et contemporain. Il avait notamment représenté les œuvres des artistes David Hockney, Pierre Alechinski ou encore Barthélémy Togo. Au début de sa carrière, il a su mettre ses connaissances de l'administration française au service du galeriste Aimé Mag, qui défendait des peintres prestigieux tels que Matisse ou Miro. C'est ainsi qu'il a gagné en réputation auprès des acheteurs comme des artistes. Il avait ensuite ouvert sa propre galerie. Daniel Lelon avait 91 ans.
Merci Nicolas, on vous retrouve demain à partir de 7h, c'est ça ?
Pour les matins du samedi.
Pour les matins du samedi, en attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.